1, 2, 3. Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis Bruno Dumont.
Bonsoir, je suis Hugo Thomas.
Bonsoir, je suis Marielle Gauthier.
Bonsoir, je suis Zoran Boukarma.
Bonsoir, je suis Ludovic Boukarma.
Et tous les cinq, à l'heure de l'apéritif, vous êtes venus partager avec nous un verre de Jet 27, un cassoulet Garbite et un peu de chair humaine.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Edith.
Rien ne se perd, tout se récupère, telle est la loi de l'écosystème culturel. Avec une petite tendance cannibale de la culture pop à avaler des concepts goûtus sans en restituer les nuances, telle est l'aventure de la romancière nigériane Chimamanda Ngozi Adichie avec l'ultra-star Beyoncé. En 2013, elle sort son cinquième album, Beyoncé, deuxième naissance, car sortie sans demander la permission.
We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes.
Le titre et le clip Flawless exposent le gros mot de féminisme et même une définition qui est empruntée donc à la romancière dans son discours intitulé We Should All Be Feminist qu'elle avait tenu en avril 2013 qui a été diffusé sur YouTube et visionné plus de 3 millions de fois après avoir accepté de figurer dans les paroles et le clip de Beyoncé. Eh bien, Chimamanda Ngozi Adichie se prononce pour la première fois. Elle s'est entretenue avec un journal néerlandais des Volkskrant où elle dit, excusez-moi pour l'accent, où elle dit qu'en gros le féminisme de Beyoncé n'est pas le mien, car le féminisme de Beyoncé passe son temps à se reporter à celui des hommes. Et si vous voulez connaître un peu plus sa définition, justement, elle a publié sur son compte Facebook, Chimamanda Ngozi Adichie, un petit manuel pour élever des enfants du 21e siècle, avec tout un tas de règles pour élever une fille féministe. La règle numéro 3 étant lui apprendre que les rôles genrés sont absurdes. Ne dis jamais faire ou pas faire quelque chose parce qu'on est une fille. Ça ne sera jamais une raison. Et petit 4 dans sa liste, prévenir la petite fille des dangers du féminisme light, double tacle pour Beyoncé. Pour réviser son féminisme, je vous envoie donc sur la page Facebook de Chimamanda Ngozi Adichie et aussi dans le roman excellent Americana qu'elle a publié, mais aussi du côté des gros mots chez Hugo Doc, abécédaire joyeusement moderne du féminisme, et enfin dans une BD sociale, Anne-Charlotte Husson et Thomas Mathieu, le féminisme. Vous avez donc des devoirs. Une question à Bruno Dumont qui est à côté de moi. Il y a un personnage qui s'appelle Billy dans Maloute, qui est un personnage un peu post-genre. Vous l'avez réfléchi aussi comme ça, comme une icône du 21e siècle dans l'esprit de Chimamanda Ngozi Adichie ?
Oui, j'ai pensé à quelqu'un de trouble. Donc j'ai pensé à quelqu'un qui pouvait troubler, qui soit troublant. Et donc insérer comme ça un personnage un petit peu différent, nouveau. Moderne, actuel, contemporain, et donc ça m'intéressait de le faire venir dans mon monde, et ça m'a passionné vraiment de le mettre ou de la mettre, je ne sais pas, dedans.
On est en 1910 hein, chez vous.
Voilà, et comment tout ça perturbe énormément tout finalement, tout ce qui est bien installé finalement. Ce que je dis est un peu commun, mais finalement l'autre est un élément perturbant. Et quand on filme... Moi, je l'avais assez de filmer l'amour traditionnel. Et donc, je trouvais intéressant d'insérer une mystification amoureuse de quelqu'un qui trompe quelqu'un d'autre, mais qui néanmoins est sincère. Donc, comment on peut être sincère? On peut aimer, on peut tromper. Donc, moi, toute cette duplicité me passionne. Et voilà comment le personnage de Billy est arrivé.
Trouble dans le genre avec le personnage de Billy, on en reparlera. Mmh.
Marielle Gauthier, je m'adresse à vous qui êtes la seule femme du quartet de réalisateurs de votre film collectif Willy Premier avec donc Ludovic et Zoran Boukarma et Hugo Thomas. Dans le programme de votre héros Willy Premier, aller à Côte-Bec, avoir un appartement, un scooter et des copains, il n'y a pas rencontré une fille, c'est une question que vous vous êtes posée à l'écriture du scénario ?
Alors, on ne s'est pas posé la question parce qu'on avait vraiment une trajectoire très précise pour notre personnage. Mais c'est vrai que c'est un questionnement qui existe beaucoup dans l'esprit de Daniel Vanier, qui est justement l'acteur qui incarne le rôle de Willy Premier, parce qu'il a très envie de rencontrer quelqu'un. Il a très envie d'être en couple, et de partager sa vie et de partager ses aventures. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas, le sujet n'est pas traité dans le film.
Mathilde Serrel, Martin Kénéhen.
Oui.
Ping Pong. C'est sur France Culture.
Avec ta mère, on va pas pouvoir te garder.
Mais que vous allez ?
On va te mettre dans un centre spécialisé.
Vous êtes ma boule. Vous m'avez pas laissé les Mongols.
Mais c'est pas des Mongols. C'est un centre spécialisé pour les gens fragiles, comme toi. Ton frère était fragile, toi t'es fragile. Moi je veux pas que tu puisses comme ton frère, voyons.
Je suis pas mort, moi. Est-ce que je suis mort ? Moi je suis pas mort.
Ah non, t'es pas mort.
Eh ben, j'ai pas la photo sur une photo de moi, sur une tombe, que je suis encore là, je suis vivant.
Vous êtes des jumeaux.
C'est un monde, ça. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. À Côte-Bec, j'irai. Avoir un appartement, j'en aurai un. Un scooter, j'en aurai un. Des copains, j'en aurai, et vous emmerde. Enfin, moi, je suis pas bien à ma tête. J'en suis mis à Côte-Bec pour partir à zéro.
Vous avez déjà travaillé dans la grande distribution ?
Non.
Vous connaissez le principe du discount ?
Non.
Est-ce que vous parlez anglais ?
Oui.
I'd like a glass of wine.
A glass of wine.
Red wine.
Wayane.
C'est bien pour toi que t'aies ton indépendance. Tu vas y arriver ?
Parce que j'ai toujours dit qu'à Colbeck, j'irai. Avoir un appartement, j'en aurais un. Avoir un scooter, j'en aurais un. Des copains, j'en aurais. Et je vous emmerde. Voilà.
Willy Premier, c'est donc Daniel Vanet, le héros du premier film de Ludovic et Zoran Boukherma, Marielle Gauthier et Hugo Thomas. Willy Premier sort sur les écrans demain. Et a déjà été projeté au Festival de Cannes dans le cadre de L'Acide. La première phrase que prononce votre héros dans votre film, la première ligne de dialogue du film, c'est « Où qu'il est Michel ?» Michel, c'est le frère jumeau de Willy. Et il semble que tout au long de cette histoire, de ce parcours initiatique, votre héros, donc vieux garçon, tenté par l'aventure pour donc aller à Côte-Bec, se cherche un frère. Vous êtes donc quatre réalisateurs associés. Il y a même deux frères dans votre équipe. Une sorte d'histoire de famille. J'aimerais que vous vous éclairiez, peut-être pour commencer, ce paradoxe qu'il y a à se mettre en famille avec cet acteur aussi, Daniel Vanet, qui vous accompagne ou que vous accompagnez depuis vos débuts et les premiers courts-métrages que vous avez réalisés avec lui. Une histoire de famille pour en même temps raconter la difficile conquête de la solitude. Pour votre héros, Hugo Thomas ?
Tout le long du film, il se cherche une nouvelle famille, en fait. Parce qu'on voit bien que dans sa famille, dans la famille qu'il a à la base, s'il reste avec eux, ça va le mener au suicide, vu que c'est le choix qu'a fait son frère jumeau. Du coup, tout le long, c'est pour ça que c'est pas paradoxal, puisque tout le long du film, il se cherche une autre famille et il se cherche un autre frère qu'il va trouver dans quelqu'un qui ne lui ressemble a priori pas du tout.
Zoran Boukherma, je donne la parole à un des frères.
Oui, en fait, tous les quatre, on s'est rencontrés à l'école de la Cité. On a appris à faire.
C'est l'école du cinéma de Luc Besson.
L'école de Luc Besson, et on a appris à faire du cinéma ensemble. Et c'est vrai que le parcours de Daniel nous a vraiment donné. Enfin, on a eu envie de raconter son histoire tous les quatre. Et c'est. En fait, on a fait.
C'est Ludovic Boukherma qui finit la phrase.
On a un peu trouvé notre genre de cinéma en faisant des courts-métrages avec Daniel, et nos goûts à tous les quatre se sont affirmés grâce à notre rencontre avec Daniel. On a fait deux courts-métrages avec lui, ensuite on a appris à le connaître, il nous a raconté son parcours, et notamment cette phrase qui revenait tout le temps, qu'il a vraiment dite à sa famille, qui était à Aulnois, j'irai, un appartement, j'en aurai un, etc. Et notre cinéma, on l'a vraiment créé autour de lui, et donc c'est ensemble qu'on s'est créé nos goûts, en fait.
Justement, il y a un pont entre votre travail et celui de Bruno Dumonde, c'est le travail avec des acteurs non professionnels, même si voilà, vous avez pu aussi changer dans Maloute, et on va y revenir, Bruno Dumonde. Au départ, c'est vrai que vous travaillez, quand vous dites « moi je prends un paysan », c'est un paysan dans la vie. Justement, comment vous l'avez abordé, vous? Je sais que chez Bruno Dumonde, voilà, vous travaillez sur une forme de réalisme qui peut être grossi dans le burlesque ou dans le grotesque. Comment vous avez apporté votre direction d'acteur sur Daniel, qui au départ est quelqu'un qu'on voit dans un reportage sur France 2 et qui vous séduit, un reportage sur l'illettrisme?
Ouais, en fait, tout est parti d'un heureux hasard. En fait, on écrivait un court-métrage sur l'illettrisme. Du coup, on voulait, c'était une volonté qu'on avait. Du coup, on faisait des recherches et on est tombé sur un reportage où Daniel, notre acteur, notre futur acteur, apprenait à lire. On le voyait apprendre à lire. Et du coup, en écrivant le court-métrage, on s'est beaucoup inspiré de ce reportage-là. Et quand il est venu l'heure de tourner ce film, on s'est dit, mais quel acteur va réussir à buter sur les mots? Parce qu'il devait jouer quelqu'un qui est illettré. Donc on s'est dit, quel acteur va être crédible en train de buter sur les mots, alors que être acteur, c'est souvent avoir fait du théâtre, etc. Donc on avait un truc, on se dit, non mais ça va pas marcher. Et on avait une intuition que Daniel, le mec qu'on a vu dans le reportage, arriverait lui à être acteur. Et du coup, on l'a appelé, et puis, très naturellement, on a appelé son association, là où il apprenait à lire. Et il nous a dit, ok, je peux venir. Il était un peu effrayé, je crois, mais voilà, il est venu. On l'a rencontré la veille du tournage du court-métrage à l'époque. Et puis, on a vu que c'était un acteur, quoi. Donc...
C'est vraiment lui qui nous a donné envie, en fait, après de travailler principalement avec des acteurs non professionnels, parce que il avait une espèce d'authenticité qui était très très importante pour nous et qui a donné, qui a fait que ce court-métrage qui s'appelait Perrault, la fontaine de mon cul, a été vraiment réussi. Et à partir de là, on a eu envie de travailler quasiment exclusivement de cette façon-là.
Oui, on a écrit le scénario de Willy Premier en se basant justement sur le parcours de Daniel. Donc pour nous, c'était inenvisageable de prendre quelqu'un
Marielle
d'autre.
Gauthier, je dis les noms, oui, au passage.
Oui, c'était inenvisageable de prendre un acteur professionnel. On avait vraiment envie de faire ce film avec lui, parce qu'on l'a construit avec lui aussi. Toute l'histoire était tournée autour de son histoire à lui. Et même tout au long de la trajectoire du film, il y a quelque chose qui nous touchait dans Daniel. C'était, en fin de compte, son visage tragicomique. C'est-à-dire que quand on le regarde, il porte en lui quelque chose d'assez lourd par son parcours personnel. Mais en même temps, il a une certaine légèreté, il a beaucoup d'autodérision. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de restituer dans le film.
Ça, c'est Daniel Vanet, donc qu'on va retrouver. On va écouter un petit peu de ce court-métrage tout à l'heure, justement dans Ping Pong. Mais justement, question à vous, Bruno Dumonde, quand vous tournez la vie de Jésus, par exemple, ou dans Maloute, où il y a des acteurs professionnels comme Lucchini, comme on a aussi donc Valeria Bruni Tedeschi, on a Juliette Binoche, que vous avez déjà tourné, vous avez tourné avec elle dans un Camille Claudel. Quand vous démarrez comme ça avec les acteurs non professionnels, qu'est-ce que justement vous dites comme point de départ? C'est-à-dire que vous n'appréciez pas, on va dire, dans l'acteur professionnel, ce qui va vous livrer. Vous dites qu'ils singent trop, qu'on voit leur tic, qu'on voit leur fausseté.
Non, mais la différence avec eux, là, parce qu'ils viennent bien d'expliquer ce qu'ils sont en train de faire, c'est que moi, je fais pas ça, en fait. C'est que moi, je distingue le personnage de l'acteur. Donc, eux, on voit, d'après ce que vous dites, qu'il y a une interaction entre les deux et que l'un se puise dans l'autre. Moi, j'écris un personnage et je vais chercher quelqu'un pour le faire qui est assez approximatif, en fait. Et c'est parce qu'il est approximatif. Mais après, je vous rejoins, parce que l'aspect humain est là, effectivement. Mais il s'agit pas de confondre l'homme, en quelque sorte, et son personnage.
Et pourtant, Bruno Dumonde, longtemps, vous avez exploré un milieu social qu'on pourrait qualifier de prolétaire, tous vos films depuis La vie de Jésus. Et tout d'un coup, vous vous emparez avec Maloute aussi du milieu bourgeois. Certes, on est à la belle époque en 1910, mais vous êtes vous-même issu d'un milieu bourgeois. Vous avez pu dire que vous n'avez jamais trouvé votre place dans ce milieu et que vous l'avez cherché ailleurs, en particulier dans le milieu auprès de la classe ouvrière. Et étrangement, donc, dans Maloute, vous revenez au milieu bourgeois pour une sorte de jeu de massacre. Il y avait aussi une façon pour vous de parler de vous dans cette histoire.
Mais parler de moi, j'imagine que je parle de moi depuis le début, mais je ne le sais pas. Moi, c'est une question qu'on me pose, mais c'est une question que je ne me pose pas. Je vois bien qu'on me pose toujours la question, mais moi, je ne me la pose pas. Je travaille avec des gens que j'aime beaucoup, avec des gens que je connais, et pour Maloute, mais en même temps, quand j'avais fait ou 29 Palms, ou quand j'avais fait Adovich, c'est bon, j'étais dans des milieux plutôt bourgeois, des milieux plutôt intellectuels. Mais pour moi, les milieux intellectuels sont des milieux très très compliqués, à construire, très compliqués. Et ça n'est que maintenant, bien sûr, avec Maloute, que je vais vers ce milieu-là. Et effectivement, je prends des acteurs. C'est-à-dire que là, il y a un côté acrobatique, justement pour exprimer la bourgeoisie, en tout cas ce que ça veut dire pour moi. Et dont le recours à l'acteur et à l'acrobatie de l'acteur me paraît indispensable.
On a un Lucchini qui est complètement bossu, déformé. Vous grossissez.
Oui, mais c'est pareil. Mais le Lucchini, comme votre acteur, il contribue. Il y a une part de lui-même qui contribue à la fabrication du rôle. Quoi. C'est une drôle de différence, vous savez, en parlant de professionnels et de non professionnels, c'est des gens et Binoche et c'est. Voilà, c'est des gens, quoi, c'est pas...
Mais oui, vous dites d'ailleurs que l'inspecteur machin, qui est joué par un non-professionnel, lui, quand il arrive avec sa tension de jeu de ce personnage que vous lui avez communiqué, qui n'est pas donc le personnage qu'il est dans la vie, cette distinction...
Mais l'acteur dans la vie.
...que vous faites, voilà. Il envoie quelque chose de totalement impressionnant pour un Fabrice.
Mais en fait,
Lucchini.
Vous ne le connaissez pas. Donc, comme vous ne le connaissez pas, vous prenez le personnage pour le rôle, en fait. Lucchini, vous le connaissez. Donc, vous voyez bien qu'il joue. Mais en fait, Lucchini joue autant que l'autre. Et l'autre, il joue. Et moi, j'aime pas qu'on dise qu'il ne joue pas, parce que c'est pas vrai. Il joue. Il y a un scénario. Et il raconte. Il vit pas. Il joue pas sa vie. Il fait autre chose dans la vie. Et même dans la vie de Jésus, c'est pas leur vie. C'est pas parce qu'ils sont du peuple qu'ils jouent forcément quelque chose d'eux. Donc ils composent. Et c'est vraiment des acteurs. Quoi. Ils font un véritable travail. Et c'est pas du documentaire. Je vois pas quelqu'un comme ça devant la caméra. Et puis vas-y que je te filme. Et ben, non, c'est pas ça du tout.
Mais à propos de l'ambiguïté justement qu'il y a avec. L'aspect documentaire, tel qu'on a pu percevoir vos premiers films, Bruno Dumont, et tel qu'on peut percevoir aujourd'hui votre film Willy Premier, donc Zoran et Ludovic Boukherma, Marielle Gauthier et Hugo Thomas, puisque c'est donc à quatre, je le répète, que vous signez ce film. Vous jouez avec cette ambiguïté documentaire, mais, dit l'un de vos personnages, Willy 2, incarné magnifiquement par Romain Léger, la réalité, la vérité, c'est de la merde. Est-ce que cette phrase, c'est un peu votre credo, c'est une conviction que la vérité, c'est de la merde et qu'il y a besoin de fiction.
C'est sûr que, en tout cas, là où je me retrouve dans ce que disait
Bruno
Dumont, c'est que cette ambiguïté, c'est sûr qu'elle existe, puisqu'on est parti du parcours de notre acteur pour décider de la trame du film. Donc il y a une ambiguïté entre... Mais par contre, pour les autres personnages, ils jouent des rôles complètement fictionnels. Et effectivement, même pour notre acteur Daniel, on a envie, dans les prochains projets, de l'emmener dans des rôles complètement fictifs, qui l'emmener très loin de ce qu'il est dans la vie, parce qu'il nous semble que c'est là qu'il est encore meilleur. Et donc, par exemple, on avait fait un court-métrage avant ça, où il jouait un prof de techno qui le soir allait dans des parkings chercher des gigolos, etc. Et
Ich bin eine Tata.
Exactement.
C'est le nom du court-métrage en question.
Très bon accent.
Bravo.
C'était mieux que sur le journal néerlandais. Bon, passons.
Et donc, ouais, et il nous semble que c'est même là qui nous impressionne le plus, en fait.
Et même dans Willy Premier, c'est-à-dire que le film, on avait vraiment la volonté de faire une fiction. C'est-à-dire que Daniel, c'est effectivement, la trajectoire de Willy est proche de la trajectoire de Daniel dans la vraie vie, mais ça reste un rôle de composition. C'est-à-dire que Willy n'est pas Daniel Vanet, donc Daniel joue la comédie. Oui, les parents de Willy dans le film ne sont pas un vrai couple. Les personnages n'évoluent pas dans les décors, dans leur décor de la vie de tous les jours. On a pris des gens, on les met en situation nous. Et on les fait composer des situations qu'ils ne vivent pas forcément dans leur vie. Quoi.
Mais Marielle Gauthier, on a tendance à penser ou à dire dans le discours médiatique que les gens du peuple sont des gens sans histoire. Vous aviez l'intention de leur faire des histoires dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois en faire des héros et puis leur causer des problèmes un peu?
Alors nous, on ne pense pas du tout que ces personnes sont sans histoire. Au contraire, on pense qu'ils ont une histoire qui est assez extraordinaire, surtout quand on s'attache au parcours de Daniel. Et on avait envie de restituer cette trajectoire qui, pour nous, est vraiment une trajectoire pleine de courage et de... d'immensité. Daniel, c'est quelqu'un qui est parti de très bas et qui est arrivé à un niveau qu'on pourrait définir comme un niveau normal. Mais par contre, le parcours qu'il a fait entre ces deux points est un parcours digne d'un héros, et c'est ce qu'on avait envie de restituer dans ce film.
Hugo Thomas, vous avez pu parler de mini success story, justement, à propos de ce parcours. Parce que finalement, dans les histoires, dans les récits de la fiction aussi médiatique, du storytelling, une success story, ça se termine pas comme dans votre film sur l'image de quelqu'un qui réussit enfin à faire le ménage dans son appartement. Ou c'est pas la scène de quelqu'un qui enfile pour la première fois un casque de scooter sur une musique grandiose d'Eurodance. Donc comment est-ce que vous avez abordé, voilà, un peu ce contre-genre de la success story et pour le faire vôtre et pour proposer autre chose?
Nous, c'est une conviction qu'on avait depuis qu'on connaît Daniel, qui est notre ami. C'est que quand il nous racontait son histoire, on se dit, putain, mais c'est incroyable, son parcours nous impressionnait authentiquement. C'est pour ça qu'on a choisi ce genre de la success story. C'est juste une histoire de d'où on part. Évidemment, quand on part avec pas mal de chance dans la vie, Il faut accomplir des choses extraordinaires pour être un héros, mais quand on part avec très peu de chance, et ben le fait de devenir quelqu'un d'assez banal au final, c'est déjà extraordinaire. C'est juste ça qu'on voulait montrer.
Mais est-ce qu'à votre façon, Bruno Dumont, avec Malout, vous, je dirais, peut-être par opposition au discours que nous tiennent à présent les réalisateurs de Willy Premier, avec ce film, vous nous dites pas, peut-être une fois de plus, que le rapprochement des classes sociales, le changement de classe sociale, comme on peut essayer de changer de sexe, ça n'est pas possible. Que ce jeu vicieux, comme disent les personnages de votre film, a quelque chose d'impossible.
Mais moi, je ne crois pas beaucoup aux classes sociales. Je pense que c'est une vue de l'esprit, les classes sociales. Moi, les classes sociales de Malout sont totalement irréelles. Nous sommes les Vampeteghem et nous sommes les
donc pêcheurs. La grande bourgeoisie de Tourcoing, rappelons-le, voilà, face aux pêcheurs de moules.
Je pense qu'on est à travers les toutes les classes, enfin les classes du cinéma qui sont représentées. Le film est trop inexact pour dire une vérité sur la réalité de la vie d'un pêcheur au début du XXe siècle. Donc il y a suffisamment d'éléments irréels pour mettre le doigt sur le fait qu'on est dans une représentation non pas d'êtres sociaux, mais moi je pense du spectateur lui-même. Je me reconnais dans le pêcheur, je me reconnais partout. Moi je suis partout. Moi je crois mes filles n'ont jamais eu de valeur sociale du tout.
Mais est-ce qu'on peut dire que Billy c'est vous, ce personnage trouble alors?
Sûrement, oui. On est traversé par les contraires, on est traversé par la duplicité, on est traversé par l'amour, par le cynisme, par le mensonge. Et moi, je me reconnais aussi bien à travers Malout, bien sûr, puisque c'est le héros. Donc, Malout est là, mais en même temps, je me reconnais aussi à travers le personnage de Lucchini.
Il y a votre vision, votre sens.
On est tous susceptibles de pontifier, de dire des conneries, d'être totalement crétins. Et en même temps, d'être tendre. Je pense que la tendresse, elle nous pend au nez aussi. Donc, on est tous des saints et des salauds. Moi, je pense vraiment à ça, quoi. Je pense qu'on est vraiment mêlés. Et c'est très difficile d'en parler intellectuellement. Et au cinéma, c'est plus simple. Parce qu'au cinéma, on peut laisser aller, on peut filmer. Et justement, c'est très difficile de... Moi, quand j'avais fait La vie de Jésus, c'est ça. On sait pas si c'est un mec bien ou si c'est un salaud, quoi. Mais il s'agit pas de quelqu'un. Il s'agit de nous. C'est nous qu'on filme. C'est cette part de nous-mêmes que le cinéma fait sortir et qu'il héroïse. Voilà. C'est héroïsé à travers un personnage. Mais mes personnages n'existent pas.
Vous avez pu parler d'attachant et de hideux, oui, à propos de vos personnages dans La vie de Jésus. C'est un petit peu ça aussi que vous...
C'est ça qui nous traverse, oui.
Et qui vous traverse aussi, vous, les quatre réalisateurs que vous êtes.
Ils sont quatre.
Cette autre forme aussi de groupe et de couple.
Oui, c'est sûr. Déjà, nous, on est quatre et on incarne un rôle. Mais bon, après, on n'est pas acteur. Mais après, je reviens sur ce que vous dites, justement, pour le rôle de Willy Premier, toujours Daniel Vanet, qui, justement, on s'est basé sur ce concept de vouloir vraiment le montrer comme il était. Donc, ne pas montrer que ses côtés positifs ou ses côtés négatifs, de le rendre aussi violent et en même temps attachant. Et c'est quelque chose qui nous importait beaucoup, parce qu'on voulait pas le traiter avec des pincettes. On voulait le montrer comme on le voit vraiment. Donc que ce soit dans ses côtés sombres ou dans ses côtés plus lumineux.
Attachant et hideux, lui aussi.
On va l'écouter, justement, hein, dans l'un des courts-métrages dont on a parlé tout à l'heure. Il s'agit de Perrault, la fontaine, mon cul.
T'as plus qu'il vit, hein? Ça fait Sale gosse. Tu sais rien faire de bon. Fils de pute. Hein. Culé. Tu vois, on va faire des coupables. Ils vont venir te casser la gueule. Hein. Et puis toi, on va te couper tes oreilles en pointe. Et tes parents, elles-mêmes. Et bien, ton père, il va lui faire une boule à zéro, gros. Et à ta mère, elle va lui allonger son nez. T'as compris? Tiens, toute ta peine.
C'est un court-métrage qui avait été sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand en 2015, qui avait eu un prix d'interprétation à Daniel Vanet, qui l'avait reçu aussi pour le Ich bin eine Tata qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est l'une de vos opérations à 8 mains, Ludovic Boukarma, Zoran Boukarma, Marielle Gauthier et Hugo Thomas, je reprécise tous les noms. Justement, dans le travail avec Daniel Vanet, comment est-ce que ça fonctionne, on va dire, quand il y a une direction d'acteur à 4 voix? Parce que là, forcément, il y a des. On avait pu recevoir les frères Dardenne avec qui on avait évoqué ce travail, c'est-à-dire qu'il y avait des premières prises avec Luc et puis des ajustements derrière. Comment ça marche chez vous dans l'écriture, sachant qu'il y a de plus en plus de films qui sont signés à plusieurs. Il faut rappeler La Caméra d'Or, qui est signée à 3, Party Girl. Comment vous fonctionnez et qui a envie de répondre en premier, du coup, c'est première expérience in situ.
Zoran Boukarma.
En fait, on se sépare pas les tâches. Donc, on a essayé de se dire, voilà, la première prise, ça va être Hugo qui parle. Par exemple, aujourd'hui, c'est Hugo qui parle, aujourd'hui, c'est Marielle qui parle, pour essayer d'avoir un porte-parole, pour pas parler tous en même temps, mais ça, c'était assez difficile. Et en fait, on avait beaucoup de débats sur le plateau. Et c'est-à-dire que dès qu'on donnait une indication à un comédien, il fallait d'abord qu'on se soit concertés tous les quatre. Donc, ce qui prenait un peu de temps parfois, mais ce qui finissait par fonctionner.
Donc, tout ce qui d'habitude se passe dans la tête d'un réalisateur, je suppose. Voilà, qu'ils ont toujours des doutes, qu'ils ne savent pas exactement.
Là, c'est multiplié
ils sont pas
par
4, certains.
C'est puissance 4.
C'est multiplié par 4, et surtout, il y a un gros défaut, c'est que c'est à voix haute. Et du coup, ce qu'on peut garder pour soi, bah, nous, tout le monde le voyait. Donc,
par exemple,
c'est gênant.
Il y a des débats, on va dire, presque de valeur esthétique ou morale sur ce que vous voulez pour le spectateur, des choses sur lesquelles il a fallu reculer peut-être pour l'un d'entre vous.
Ah oui, bien sûr, constamment.
Bah, c'est vrai qu'on débat surtout, que ce soit le cadre, ou que ce soit même des fois des questions morales aussi. Effectivement, surtout au montage, il y a certaines séquences qu'on a questionnées.
Mais donc, il y a très très peu de prises, alors, le temps que vous mettiez d'accord, c'est ça?
Non, il y a quand même pas mal de prises, parce que aussi...
Une chacun
Oui, en fait, on peut essayer plusieurs choses. Tant que ça marche pas, on continue d'essayer. Donc, on n'avait pas du tout un nombre limité de prises. Au contraire, on avait 4 fois plus d'idées pour la direction.
Un exemple de moralité de débat au montage, par exemple. Un exemple, par exemple. C'est un défaut de cette émission, on tautologise un peu sur les exemples.
Non. Certaines séquences ont pu nous sembler des fois aller trop loin et même plus coller à quelque chose de vraisemblable dans le parcours de Willy et du coup on les a enlevés.
En fait, très concrètement, tu voyais très concrètement, on avait une scène, par exemple,
Marielle Gauthier.
Où Daniel Vanet, justement, qui interprète Willy Ier, était assis sur un canapé avec un autre personnage. Et il voulait organiser une fête. Et en fin de compte, personne venait à la fête. Et il y avait juste une femme qui était là. Et c'était une femme qui était assez
ronde.
Et on avait l'impression de chercher le rire du spectateur à travers, justement, le physique de cette dame. Donc on a beaucoup questionné cette séquence-là, qui d'ailleurs n'est plus dans le film.
Et qui a été montrée à Cannes, par contre, qui a sauté depuis.
Justement, pour une question de moralité, alors on se disait, oui, mais on a envie d'oser des choses, donc peu importe la raison pour laquelle on rigole. Et puis d'un autre côté, on se disait, oui, mais on aimerait bien qu'au début du film, les gens puissent se sentir libres de rigoler, peut-être avec moins de contraintes morales. Donc en fin de compte, la séquence n'est plus là.
C'est l'heure de l'apéritif, c'est l'heure de l'apéritif, c'est l'heure de l'apéritif. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong, l'émission qui pense à 7 têtes ce soir, au moins, autour de la table de Ping Pong. On va se balader du côté de Malout, on va changer de siècle, on partira au 19e avec Bruno Dumont, et puis toujours avec Willy Ier pour en savoir plus sur cette mini success story.
Ping Pong. La culture sans limite.
Et ce soir, Ping Pong met du chocolat dans votre apéritif, du chocolat et du génie, puisque notre disque du jour est le nouveau titre du collectif solitaire Chocolate Genius Incorporated, un groupe forgé par le seul Mark Anthony Thompson, un Américain natif de Panama, adoubé par les intransigeants new-yorkais Mark Ribot et John Zorn. un lascar noir, comme l'explicitait son premier album, Black Music, un prophète aussi, comme l'annonçait son album suivant, God Music, après quoi on a songé qu'il allait crever au fond d'un canyon en Californie quand il a publié Swan Songs, les chants du cygne, mais en juin dernier, Chocolate Genius Incorporated a écrit et composé en solitaire Epilogue One, Truth vs Beauty, sorti sous le label No Format, un disque dont les morceaux ont été enregistrés au téléphone, dans une salle de bain, un couloir ou un placard, difficile de savoir où se cache le génie. Et le morceau que nous vous proposons ce soir s'intitule Fortitude, un mot de vieux français qui signifie fermeté d'âme en pleine tempête. Extrait du nouveau disque de Chocolate Genius Incorporated, Truth vs Beauty, paru sous le label No Format. Chocolate G sera en concert samedi au Théâtre du Châtelet dans le cadre du festival No Format, qui lui se déroule vendredi et samedi et dont on peut découvrir les subtilités dans les pages du Figaroscope, notre partenaire.
Et comme le disait papa, nous sommes des bons petits gamins, voilà tout. Et à ce titre, arrive ce qui arrive.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Quel bonheur à chaque fois de retourner sur cette côte. Mais regardez là-bas, ces cueilleurs de moules.
Qu'est-ce que pue cette carriole?
Oh, comme c'est pittoresque.
La glycine, elle a pris 2 mètres.
Tout pousse, André. Tout pousse.
Et mon petit frère, comment va-t-il? Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais.
Pourtant, vous venez tous les ans.
Hein. Et toi, tu t'appelles comment?
Maloute.
Maloute. Qu'est-ce à dire, Maloute?
Je sais pas, madame. C'est comme ça que je m'appelle.
C'est ici que cette personne aurait disparu, chef.
Ça commence à sortir le roussi, là, hein?
Bon, les personnes ont disparu dans la baie?
C'est terrifiant, André!
Il n'y a rien à craindre, enfin! Allons! La police est à pied d'œuvre maintenant!
Hé là! T'as trouvé quelqu'un? Quoi? Je comprends pas, qu'est-ce que t'es dit?
Alors, c'est une affaire très mystérieuse! Sans cadavre!
Tu n'as pas peur de disparaître?
Tu nous protégerais, n'est-ce pas, Maloute?
Où les cœurs? Où les cœurs?
« sur un Carmen de Georges Bizet que vous aurez reconnu. Maloute, Bruno Dumont, c'est un film qui sort en DVD. On peut regarder les bonus dans n'importe quel DVD. Il y a une interview de vous, par exemple. Vous expliquez un petit peu le travail de ce film. Bon, pour poser le décor, et le décor c'est toujours important chez vous puisqu'il est posé au départ, on est en 1910 sur la Côte d'Opale. On a donc cette maison qui a un style égyptien bizarre où vivent les bourgeois, une sorte de fantaisie. On s'extasie toujours du beau et du charbon et du formidable chez
les snobs.
Et du snob, voilà, chez les Van Peutingen. Et puis on a de l'autre côté donc des pêcheurs de moules qui font traverser également un bras de mer. Vous avez donc eu ce travail de lier les cartes postales entre elles. Pour écrire le film, vous avez toujours une approche très picturale. On parle même de peintre numérique sur les bleus qui sont extrêmement profonds dans Maloute. Donc, est-ce que vous diriez peut-être que vous avez un cinéma d'hypalage ? C'est-à-dire que c'est d'abord par les paysages que viennent, on va dire, ce qu'on a comme information sur
les
personnages.
Ah oui, toujours, oui. Moi, je commence toujours par là. C'est-à-dire, puisque tout se passe dans un paysage, tout se passe dans un endroit, il faut bien choisir l'endroit. Il faut que l'endroit soit... se prête à ce qui va se passer, en fait. Donc, il y a tellement de choses qu'on aura du mal, peut-être, à percevoir. Il faut que on passe quand même pas mal de temps à regarder le paysage. Quand on parle, quand on s'aime, quand on se sépare, il y a toujours un paysage qui est là. Et le paysage, il est toujours métaphorique de ce qui se passe, même dans le sang, d'ailleurs. Donc, je suis très sensible à ça. Moi, je trouve que le cinéma doit tenir compte du choix. Enfin, le choix est très très important parce que ce sont des places qu'on va cadrer quand même. On va placer des personnages, on va faire des subjectifs, on va faire des travelling. Donc il faut que ça parle. Donc il faut que il faut pas se tromper quoi.
Mais ce paysage précisément, Bruno Dumont, de la baie de la Slack, divin, sublime, quintessentiel selon les Van Peutingen. Ce paysage, la vue, on ne la voit plus, dit André, qui est donc interprété par Lucchini dans votre film. Et est-ce qu'on pourrait la voir grâce à vous, parce que vous y avez aussi planté le décor de votre nouveau film qui est en montage actuellement sur la vie de Jeanne d'Arc, cette baie de la Slack à travers vos yeux. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble?
Bah, ça ressemble justement. Les bords de mer, c'est très intéressant parce que c'est le bord. On est au bord, donc on est dans la fracture. Et c'est un décor très intéressant. Moi, je suis très très intéressé et très angoissé en même temps par le bord de mer. Je trouve que c'est des paysages qui parlent beaucoup. On va souvent au bord de la mer quand ça va ou quand ça va pas, quoi. Donc on sent que les paysages participent bien au mouvement de notre âme. Et donc là, je voulais aussi aller au bord des gens, quoi. Et effectivement, le snob est intéressant parce qu'il est tellement hypersensible, c'est qu'il augmente il augmente son acuité, il augmente son regard sur le paysage. Il trouve ça magnifique, il trouve ça beau, et Maloute trouve ça, il dit rien, il trouve ça normal.
Maloute, qui est le pêcheur, qui a une très belle vue aussi. Mais
c'est très intéressant que devant un même paysage, quelqu'un trouve ça génial et que l'autre trouve ça normal.
Alors, on va être aussi devant des paysages d'acteurs qui sont différents, que vous avez une manière de travailler. On a parlé donc de ce lien entre différentes cartes postales parce qu'on est en 1910. Et même si, d'une certaine manière, avec cette phrase, nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas, vous nous parlez du monde d'aujourd'hui. C'est un mantra qui revient... En permanence, vous avez décidé de nous mettre dans ce début du XXe siècle. Vous avez décidé de nous parler aussi de Victor Hugo. C'est quoi tous ces indices, finalement, et pourquoi cette envie de se mettre à cette époque-là ?
Parce que c'est une époque très expressionniste. C'est-à-dire, le bourgeois, on le reconnaît, et le pauvre, on le reconnaît aussi. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne fait plus la différence. Tout le monde est en jogging. C'est-à-dire, il y a une espèce de... Il est beaucoup plus difficile, dans la modernité, de saisir la différence. Et le cinéma, pour moi, est un lieu d'expression. C'est-à-dire qu'il faut, surtout dans le comique, il faut outrer, donc il faut augmenter. Et je trouvais que cette époque était particulièrement opportune pour justement bien montrer ce que c'est que quelqu'un du peuple et ce que c'est quelqu'un qui est embourgeoisé. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à voir.
Mais oui.
Et dans Willy Ier, justement, Marielle Gauthier, Hugo Thomas, Ludovic et Zoran Boukherma, donc qui êtes les quatre réalisateurs de ce premier long métrage avec Daniel Vanet dans le rôle titre de Willy Ier, il y a cette phrase de votre Willy Ier, Côte-Bec, c'est beau. On parlait de s'exalter, de s'extasier devant le paysage, comme le font les personnages de Maloute. Et il y a aussi d'autres gens qui sont moins sensibles que lui à ce paysage. Parlez-nous un peu justement de votre rapport, vous, à votre paysage, parce qu'il y a une esthétique, on peut le dire, qui est pas tout à fait celle de Bruno Dumont, qui est à la fois très lisse et très racée, très élégante, et qui en même temps décrit une certaine cruauté, une certaine crudité de la réalité.
Ce dont on avait envie, c'était de filmer un paysage devant lequel seul Willy s'extasierait, en fait. C'est à travers ses yeux à lui, la ville de Caudebec, qui est pour à peu près tout le monde une ville normande, simplement une ville ordinaire. À travers ses yeux à lui, ça devient c'est quelque chose de magnifique, quelque chose de pour lui c'est son Eldorado, en fait, à ce personnage là alors que quand on la voit, quand on la filme, nous on essayait plutôt de filmer quelque chose de gris, de quelque chose d'assez dur, mais à travers son regard, ça devient l'endroit où il faut être. Et voilà. Et pour Willy, Caudebec, c'est beau parce que ça représente être loin de ses parents, être libre, être indépendant. Et donc, son état d'esprit est positif, et donc pour lui, l'endroit où il est beau, quoi.
Et pour vous aussi, alors, Caudebec-en-Caux, le lieu de ce premier long métrage, du tournage de ce premier long métrage, Maria Gauthier, c'est beau.
Ah ben, Caudebec, c'est très beau, vraiment.
Et sa zone d'activité commerciale en particulier, avec ses parkings.
Oui, après bon, il y a de tout comme dans toutes les villes, mais non, Caudebec, nous, on a beaucoup aimé.
Et puis le personnage de Willy 2, le deuxième Willy, l'ami du personnage principal, pour lui, l'endroit le plus beau du monde, c'est l'Allemagne, c'est là qu'il veut aller, parce que là-bas, la vie... elle est plus facile, il y a beaucoup moins de chômage, puis il y a de l'ordre, c'est quand même... Merkel, elle a quand même des couilles. Donc voilà, chacun a son beau, chacun a son...
Son pays de cocagne, ouais.
Et aussi, on avait envie que les objectifs de Willy soient tellement forts qu'il s'accroche à son optimisme et qu'il ne voit plus vraiment la réalité comme elle est ou comme elle peut sembler aux yeux des autres personnages.
Donc Willy, il cherche, pour le rappeler, dans Willy 1er, après la mort de son frère jumeau, qui est une mort comme ça, qui va déclencher une émancipation obligée, c'est-à-dire subie par son entourage qui le jette dans cette aventure. Et il va devoir donc, va dire, passer le schéma narratif, en fait, d'un film d'initiation, d'un film d'émancipation, mais comme vous le faites, c'est-à-dire en jouant sur les minima qui sont d'obtenir un scooter et qui sont de s'extasier sur ce paysage qui est pas l'Amérique, voilà. Chanté par les Français de variété, on va dire. Je voudrais qu'on revienne justement à jouer sur ces minima. Il y a quelque chose de très appuyé dans Maloute de Bruno Dumont qui est intéressant, c'est que finalement tous les personnages de la bourgeoisie, mais aussi de l'inspecteur qui mène l'enquête, parce qu'il faut rappeler il y a des disparitions dans Maloute, ne tiennent pas bien sur leurs gambes. Ils passent leur temps à tomber. Vous avez beaucoup travaillé la chute. Et finalement, les deux pêcheurs qui font traverser et qui sont un petit peu, voilà, en brigade dans cette affaire de disparition, tiennent bien sur leurs jambes, sur leurs gambes. Pourquoi, Bruno Dumont ?
Ils sont quand même anthropophages, hein, donc ils ne sont pas non plus... Oui, d'accord, ils tiennent bien sur leurs jambes, mais ils ont d'autres particularités. Non, ils sont tous frappés d'une forme de grotesque ou de quelque chose de d'immonde. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est justement de trouver l'immonde aussi bien chez le pêcheur que chez le bourgeois, quoi. Donc chacun a sa dose de d'immondice, si j'ose dire, au bord de soi. Donc il fallait aussi partager. C'est pour ça qu'il fallait. C'est pas un règlement de compte entre les uns et entre les autres. Je pense que le rire, on peut rire de tout, quoi. On peut rire du, il faut rire des gens simples, quoi. Il faut pas non plus, je pense, commencer à glorifier le peuple, surtout pas, et taper sur le bourgeois. Je pense qu'il faut faire les deux. Il faut taper sur le peuple et taper sur le bourgeois.
Et donc, le rire
quand
que vous placez
le bourgeois tombe, le pauvre mange des oreilles et des doigts, par exemple, chez Bruno Dumont.
Mais précisément, justement, il y a ces corps qui tombent et il y a une référence, ou en tout cas les spectateurs amateurs de cinéma muet, de cinéma du début du XXe siècle, évidemment se réjouissent de découvrir toute cette atmosphère qu'on pourrait dire slapstick du jeu des corps, du jeu burlesque ou grotesque, comme vous le dites, Bruno Dumont. Mais il y a aussi les visages de chacun de vos personnages. J'ai pensé à Buster Keaton, parce que Maloute, votre héros, a des airs de Buster Keaton. Mais Buster Keaton, il le dit dans ses mémoires, c'est l'homme qui ne rit jamais. La figure de marbre, la tête de buis, le frigo, le visage, la figure de cire. Il cite tous ces surnoms qu'on lui a donnés dans ses mémoires. Et vous, au contraire, tous les personnages ont des visages qui sont parlants, sans parole, ils sont convulsifs, ils sont ahuris, ils sont inspirés. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre façon de diriger vos actrices, vos acteurs à partir de leur seul visage?
Justement, de les pousser. Le travail que j'ai fait avec Lucchini, avec Binoche, avec Valeria, c'était justement de leur demander d'aller au-delà de leur jeu naturel et d'aller dans l'outrance, de chercher le ridicule. Et donc, ce qui était extraordinaire de leur part, je trouve, c'est d'accepter ça. C'est-à-dire de camper des personnages au-delà du bienséant, au-delà de la chose convenue, et de chercher à l'intérieur d'une scène, quelque chose, justement, le moment où le ridicule apparaît.
Et de révéler quelque chose d'eux-mêmes.
Mais c'est évident. Mais pas tellement d'eux-mêmes. C'est leur métier. C'est pas tellement d'eux-mêmes. Je pense que chacun donne une partie de soi. Mais je pense que c'est leur brio. C'est justement d'être capable d'aller chercher une partie de nous-mêmes. C'est pas d'eux-mêmes. Lorsque Lucchini, il a rien à raconter sur lui. C'est pas le propos. C'est que Lucchini parle de nous. C'est-à-dire que son personnage, ce que j'ai dit tout à l'heure, il parle de moi, quoi. C'est évident qu'on se miroite à l'intérieur de Lucchini.
Vous avez un petit déhanché à la Aldo Macchione, comme ça?
Voilà, et de le pousser.
Aldo Macchione, bien bossu, quand même.
Voilà. Donc, il fallait le désarticuler. Il fallait l'empêcher de jouer comme d'habitude. Et donc, le pousser dans un jeu, justement, désarticulé. Il a mis un certain temps, quand même, à y aller, quoi. Il a fait un gros travail sur lui pour le faire. C'est-à-dire, voilà, c'est une forme de... Il s'est désinhibé pour pouvoir jouer ça. Enfin, il le dit.
Et justement, dans votre travail d'un Lucchini déformé, d'une Juliette Binoche surexaltée, qui part dans des hauteurs de folie incroyable, d'une Brunité Deschi très sombre, marbresque, frigide, un petit peu à l'image... Quand vous créez cet inconfort dans la direction d'acteurs qui va finalement, évidemment, leur plaire, parce que par exemple, Juliette Binoche, c'est quelqu'un qui est venu vous chercher pour avoir...
Ils ont envie de ça. Ils ont envie de l'aventure du jeu. C'est-à-dire de ne pas rester sur leurs habitudes. Donc, ils sont toujours très curieux qu'un réalisateur vienne leur proposer. Mais en même temps, ils ont peur. C'est évident qu'ils ont peur parce qu'ils ont peur de se planter. Mais c'est normal, c'est naturel. Donc, c'est aussi, si vous voulez, de leur part, ce que fait Juliette Binoche, c'est sacrément barré quand même. Donc il y a un risque pour elle. Le risque, bah, c'est de taper à côté, tout simplement. Donc ce qui est formidable, bah, c'est d'y aller, quoi.
Mais est-ce que justement, dans l'inconfort que vous allez avoir avec eux, et finalement, eux en sortent grandis, mais vous cherchez aussi, on va dire, l'inconfort sur l'attente du spectateur. Parce que c'est là qu'on est un peu
tout à fait
dans les plis, voilà, de notre culture. Absolument. Cinématographique, à être presque gêné par la performance, voilà, de Binoche, puis peut-être
tout à fait
s'en enticher, quoi.
Et c'est, ça, c'est formidable. C'est le deuxième niveau. De passer par le spectateur et de le sortir de ses gonds. C'est-à-dire de son habitude de voir un acteur comme ça, et de se poser la question, est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est pas drôle? Est-ce qu'il faut que je rie ou pas? Je pense que cet inconfort, il est essentiel au cinéma, en fait. C'est-à-dire, justement, de sortir du convenu. Et moi, je me fais fort, justement, de m'aventurer dans des situations, même dramatiques, inconfortables, moralement, parce qu'on sait pas si c'est bien ou si c'est mal. Tout à l'heure, vous posiez la question de la moralité. On se pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce que je peux rire, est-ce que je peux pas rire? La grosse dame là, que vous avez enlevée tout à l'heure, il fallait l'enlever, il ne fallait pas l'enlever? Bah, c'est une vraie question.
Mais précisément, si on revient à votre Willy Premier avec vous, donc le quartet de réalisateurs qui signait ce film, votre acteur, Daniel Vanet, qui est donc un homme que vous avez rencontré, vous le disiez tout à l'heure, découvert dans un reportage sur l'illettrisme diffusé sur France Télévisions, vous avez décidé de faire du cinéma avec lui, deux courts-métrages, aujourd'hui un long-métrage qui s'inspire de sa vie. Il a un corps qui est hors norme, qu'il accepte de dévoiler, que vous filmez dans sa nudité, quasiment. Est-ce que vous, justement, vous l'avez déplacé, vous l'avez mis à mal, vous l'avez bousculé, vous l'avez désarticulé aussi dans son corps et sa propre attitude, qui pouvait avoir quelque chose de très fascinant pour des cinéastes comme vous? Voilà, vous avez désarticulé Daniel Vanet pour en faire Willy Premier? Marielle Gauthier ?
Non, on ne l'a pas désarticulé, on l'a utilisé, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'il en impose avec son physique, et on a utilisé ça pour notre personnage. Après, Daniel, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision et qui n'est pas du tout pudique. Donc la question de qu'est-ce que je peux montrer de moi ou qu'est-ce que je n'ai pas envie de montrer de moi ne s'est pas beaucoup posée avec Daniel, parce qu'il était en grande confiance et qu'il avait très envie de faire ce film avec nous.
Et en même temps, Daniel a beau avoir un physique très imposant, que dans la vie, c'est quelqu'un de très calme et de très... qui a pas de violence vraiment en lui. Et nous, on l'a quand même emmené sur le terrain de la violence, on l'a fait se battre, et ça, c'est quelque chose qui n'était pas naturel, pour lui. Donc ça a demandé de la composition de sa part. Ouais.
Et Bruno Dumont parlait tout à l'heure du fait de ne pas ménager le peuple. On n'avait pas envie de ménager Daniel. On s'était dit, voilà, si on avait pris un comédien, la meilleure façon de le traiter comme tout le monde, un comédien, on l'aurait montré torse nu, on n'aurait pas eu de scrupules ou de problème moral à le montrer torse nu. Et on s'est dit que pour traiter Daniel de la meilleure façon, il fallait pouvoir le montrer torse nu lui aussi, en fait.
Justement, j'évoquais tout à l'heure une scène de scooter où il est torse nu, comme ça, un petit peu glorieuse, accompagnée par l'Eurodance, entre autres. Il y a notamment au moment de la mort du frère jumeau, donc du personnage de Willy, une utilisation de l'écriture d'Internet. C'est-à-dire, vous reprenez un petit peu ces codes de l'Internet des années 90, des images un petit peu kitsch.
Ou
plus récent. En tout cas, un Internet comme ça, très, très chic, très chic. Ou très chic, ça dépend pour qui. Justement, comment est-ce que ça, c'est difficile à dépasser cet écueil-là, c'est-à-dire d'intégrer, on va dire, dans la cinématographie, au sens pur, le langage d'aujourd'hui, de 2016, le langage iconographique de 2016.
Nous, on est tombés sur ces vidéos-là ensemble, et il nous a semblé directement qu'elles étaient très cinématographiques, parce qu'elles portent en elles quelque chose d'assez comique à la base. Parce que, en fait, c'est des vidéos, les vidéos dont vous parlez, il y en a plein sur YouTube, c'est-à-dire les gens font des hommages à des gens décédés. Et à la base, c'est bizarre parce que c'est hyper kitsch, c'est bourré de fautes d'orthographe, donc on a direct une réaction de recul, un peu de rire quand on voit ces vidéos. Et au final, quand on les regarde, je ne sais pas si vous en avez déjà vu.
Je les ai découverts avec votre film.
Mais c'est très, très courant. Hein.
On va dire qu'on connaît cette imagerie-là.
Oui, cette image.
En tout cas, ce langage-là.
Et à la base, ça paraît kitsch, mais très vite, on est submergé par une certaine émotion parce que c'est hyper sincère. Et en fait, on s'en veut d'avoir un peu, de s'être un peu moqué au début, de s'être dit que c'était une vidéo kitsch. Parce qu'au final, c'est juste des gens qui sont en train de parler, des personnes hyper proches d'elles qui viennent de mourir. Et en fait, c'est absolument. C'est terrifiant et c'est hyper triste.
Et ouais, c'est un nouveau moyen qu'on a en 2016 d'exprimer son deuil. On peut soit pleurer toutes les larmes de son corps, comme ça s'est fait pendant des siècles et comme ça se fait encore, et on peut aussi faire des vidéos kitsch. C'est un moyen d'exprimer ses émotions et les gens le font, donc on se dit pourquoi pas le mettre dans le film. Quoi.
Et souvent, ils n'ont pas fait un master d'audiovisuel, donc ils utilisent des transitions un peu merdiques.
Oui, une école de cinéma.
Voilà. Et donc voilà, et on voulait ces transitions-là, on voulait les mettre parce que c'est la réalité. Les vidéos sont comme ça et on n'allait pas les glorifier, on n'allait pas enlever les fautes d'orthographe sous prétexte qu'on fait un film. On voulait les mettre telles quelles. Et nous, on pense que c'est émouvant.
Il n'y a ni gloire ni déshonneur, y compris avec le peuple du web.
Exactement.
Rien, mon commandant, ce que je vous ai dit. Cette bête n'a pas pu arriver là toute seule. Il n'y a pas d'accès. Il y a des ouvertures, mais ils sont inaccessibles pour elle.
C'est du sang humain dans la vache, mon commandant.
Que vous dites ? Il y a du sang humain dans la bête ? Vous êtes sûr ?
On est où, là ? La bête humaine, c'est du zoo, là, mon commandant. C'est du zoo, là ?
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. C'est incroyable.
Vous faites quoi, là-bas ? Ah, c'est pas la peine de vous cacher, je vous ai vu. Eh, vous me dégagez de là, là ! Allez! Gendarmerie, dégagez! Virez-moi ces gosses là!
Oh! Bébé!
Hé! T'es de ma gueule là!
Je suis désolé, mon commandant!
Ouais, coaster!
Je suis désolé, mon commandant!
Ah ouais, bah ouais! Ah, faites attention quand même, si vous pas des sens, apprenez!
La langue de Bruno Dumont et de ses acteurs, ça c'est Petit Quinquin, la série de Bruno Dumont qui elle aussi est en DVD comme Malout, donc votre dernier film qui vient de sortir chez Memento Film. Il y a quelque chose de commun à tous vos films et peut-être une des langues un des langages que vous utilisez de film en film, Bruno Dumont, et je vous avais interviewé il y a très longtemps à ce sujet, c'est non seulement la voix, l'accent du Nord, mais aussi le son, le bruit. Il y a le bruit des armes dans Flandre, il y a le bruit des pneus sur l'asphalte dans 29 Palms, qui je crois vous avez marqué aux États-Unis, et il y a dans Maloute le bruit de caoutchouc que fait l'inspecteur machin, le bruit du scaphandrier qu'on a écouté tout à l'heure dans l'extrait de la bande-annonce, et puis le clapot de l'eau dans lequel s'enfoncent les gambes, les jambes, des bruforts et les poings quand il s'agit de se battre à marée descendante. Est-ce que vous pouvez nous parler, pour conclure cette émission, de la place du son et du bruit dans votre cinéma et dans ce film-là, peut-être?
Bah oui, j'ai commencé dans le son direct, c'est-à-dire mes premiers films étaient totalement faits à partir de tous les accidents qui avaient lieu quand on tourne, quand on fait une prise. Il y a plein d'événements qui sont là, présents, et je l'ai gardé. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est comment, dans le fait d'aller dans le drôle, j'ai dû quitter le son direct, en fait, parce que le direct n'est pas drôle, est moins drôle. C'est-à-dire il est moins construit, et quand j'ai fait Petit Quinquin et quand j'ai fait Maloute, j'ai jamais autant utilisé le bruiteur, par exemple. J'ai fait beaucoup travailler le bruiteur parce qu'il y avait plein de choses qu'on n'entendait pas, qu'on ne pouvait pas percevoir et qu'il fallait augmenter, c'est-à-dire pour que ce soit clair et pour que ce soit audible et même pour que ce soit drôle, il faut que ce soit entendu, et pour ça il faut augmenter le son. Et le son direct ne suffit plus. C'est-à-dire qu'il faut, justement, dans le grotesque, il faut donner une outrance. Et donc là, il faut rentrer dans une forme d'invention que je ne connaissais pas jusque-là.
Ping-pong. C'est déjà fini.
Eh bien, merci à tous les cinq. Bruno Dumont, Maloute, c'est donc disponible en DVD chez Memento Films, et Willy Premier sera en salle mercredi. Demain, déjà?
Mais oui.
Courons-y.
Ah oui.
En faisant un burn avec la roue arrière.
Le ping-pong est un petit film radiophonique qui se tourne en équipe et qu'à l'équipe à la rédaction Aïssat Wendoy, Jeanne Alléo, Seam Boutata et Lisa Bozès, à la réalisation Thomas Beau, à la prise de son ce soir Pierre Consigny et Anthony Thomasson.
Demain, Fiac Lux, la lumière sera sur la Fiac, entre l'ombre et la lumière, avec des performeurs, des artistes et des galeristes en direct en public de la Fiac à Paris.